Le thème du message que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est la sagesse de Dieu à travers les paroles de Jésus. Nous allons voir tout d'abord un premier passage, il s'agit de Jean chapitre 15, verset 5. Ce passage nous dit, c'est Jésus qui parle. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cette parole est étonnante. En effet, l'expérience nous montre que nous sommes capables de faire beaucoup de choses à l'heure actuelle sans Dieu. Il suffit de regarder les prouesses technologiques. Les humains ont-ils besoin de Christ pour faire toutes ces choses? Non. Donc, en quoi cette affirmation de Jésus nous concerne-t-elle aujourd'hui? Tout d'abord, un premier sous-titre, ce sont d'abord les disciples de Jésus qui reçoivent la parole. Remarquons que Jésus adresse cette parole à ses disciples. Il est en train de leur donner un riche enseignement sur la manière de travailler dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas dans l'esprit du monde, mais dans celui du royaume de Dieu où les lois du travail et les principes de fonctionnement sont très différents de ce que nous connaissons sur cette terre. Pour faire comprendre ces vérités à ses disciples, Jésus leur montre un pied de vigne. Pour que la sève puisse monter jusqu'au bout des sarments et produire du fruit, il faut que le sarment soit bien connecté. C'est une évidence. Si un sarment est cassé ou coupé, la sève ne peut plus passer et le processus de formation du fruit est interrompu. Que veut nous dire Jésus? Il a déjà expliqué à plusieurs reprises à ses disciples qu'ils sont appelés à faire des œuvres différentes de celles que produit le monde. Ce sont des œuvres destinées à glorifier Dieu. Comme le dira Paul, ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Elles ne peuvent pas être accomplies selon le modèle du monde, c'est-à-dire selon les principes purement humains. Elles doivent être faites selon un processus différent. Elles ont besoin de la vie divine pour se développer. Et cette vie, seul Jésus peut la donner. Et c'est dans la mesure où les disciples seront connectés à Jésus par le Saint-Esprit, comme les sarments sont connectés au cep, qu'ils pourront devenir les transmetteurs de la vie divine et produire les fruits de Dieu. Un nouveau chapitre. Quel état doit exister pour que la liaison soit efficace? Pour que la sève passe, il faut que les sarments soient connectés et surtout qu'ils restent connectés jusqu'à maturation du fruit. Cela est important à rappeler. Car il peut que nous commencions bien une œuvre, mais petit à petit, nous laissons de côté cet enseignement. Nous négligeons de travailler selon les directives de Jésus. Nous préférons travailler seuls. Nous oublions que pour produire un bon fruit, nous avons absolument besoin de la vie divine jusqu'au bout. Bien des œuvres chrétiennes ont bien débuté. Elles étaient fondées en Christ et elles ont prospéré grâce à cette vie divine qui animait ceux qui étaient engagés. Elles ont duré un certain temps et puis insidieusement elles ont décliné. Elles sont devenues des œuvres semblables aux œuvres humaines produites dans le monde. Elles sont maintenant d'ailleurs les modes de fonctionnement enseignés dans le monde. D'un point de vue humain, elles ont continué à avancer et rien ne peut leur être reproché. Mais d'un point de vue spirituel, elles ont perdu leur vie initiale. Souvenons-nous de ce reproche cinglant fait par Christ à l'église de Sardes. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Apocalypse chapitre 3, verset 1. C'est un risque qui guette toutes les œuvres de Dieu. Nous connaissons à Reims et c'est les arguments du monde et les subventions d'État qui ont remplacé la confiance en Jésus-Christ. Jésus disait à ses disciples qu'ils ne pouvaient rien faire de valable dans le royaume de Dieu sans lui. Il savait de quoi il parlait. Un nouveau chapitre, Jésus nous montre que c'est vers le Père qu'il faut aller. Jésus ne s'est pas contenté de l'enseigner, il l'a vécu lui-même. Dans Jean chapitre 5, verset 19, il déclare « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit le Père faire, et tout ce que le Père fait, il le fait pareillement. » Ces paroles ne sont pas faciles à comprendre. Peut-être Jésus est-il inspiré de son métier de charpentier qu'il a appris avec son père Joseph. Il le regardait faire et essayait de faire de même. Plus tard dans son ministère, il était en contact étroit avec le Père Céleste et prenait ainsi connaissance des œuvres que son père voulait qu'il fasse sur terre. De plus, il acquérait les moyens de les accomplir. D'autres paroles de Jésus en témoignent. Il dit en particulier dans Jean chapitre 14, verset 10, « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi qui fait lui-même ses œuvres. » Et d'autre part, Jean chapitre 12, verset 49 à 50, « Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois annoncer. C'est pourquoi les choses que je dis, je ne les dis pas, je les dis comme le Père me les a dites. » Jésus, malgré son intelligence, malgré tout ce qu'il avait, bien, reflétait le Père. Il prenait inspiration auprès de Père pour parler à ses disciples ou à d'autres. J'en conclus que Jésus tirait de son Père toute l'inspiration nécessaire pour ses œuvres et son enseignement. Quel exemple parfait. Jésus avait reçu le Saint-Esprit sans mesure, il avait avec son Père une communion parfaite que nous ne pourrons jamais avoir à ce degré. C'est sans doute pour cela que nous peinons à comprendre cette dépendance. Dernier chapitre. Pouvons-nous œuvrer néanmoins comme Jésus ? Je me dis tout de même que si Jésus vivait et travaillait ainsi, nous ne pouvons prétendre œuvrer sur terre en nous passant de lui. Si nous voulons accomplir l'œuvre de Dieu. Jésus disait bien que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si Jésus a estimé vital de dépendre ainsi de son Père au cours de son exil ministère terrestre, nous devons nous aussi dépendre de lui pour vivre et travailler. L'exigence est de taille. Le deuxième passage que j'ai retenu, c'est celui du psaume chapitre 40, versets 7 à 9. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. La Bible est un livre extraordinaire et ses paroles peuvent toucher les profondeurs de notre cœur. Ainsi, les paroles du psaume de David dans le cantique de louange qu'il offre à Dieu contiennent une révélation centrale qu'il a reçue de Dieu. « Tu m'as ouvert les oreilles, » dit-il, et montrant déjà que David est à l'écoute de Dieu. Les hommes dans leur adoration sont-ils à l'écoute de Dieu ? En effet, toutes les religions du monde ne sont-elles pas bâties sur le fait d'offrir à Dieu des sacrifices ? Toutes sortes de sacrifices d'ailleurs, l'histoire de l'Église est là pour en témoigner. Cela n'était-il pas un moteur du judaïsme ? Et maintenant, le fait de faire des offrandes n'est-il pas l'un des grands messages que les prédicateurs propagent en disant que la prospérité et la bénédiction en dépendent ? Et pourtant, Dieu nous dit dans un message à peine voilé que ne désire ni sacrifice ni offrande. David, dans sa grande proximité avec Dieu, nous fait savoir que la religiosité, appelant à donner quelque chose d'extérieur, peut nous conduire à manquer à l'essentiel. En effet, le Créateur du ciel et de la terre ne désire nullement nos richesses matérielles, ni nos douleurs sacrificielles. Ce qu'il désire, c'est nous. Mais ce n'est pas le « nous » que nous sommes, mais le « nous » réalisant la volonté de Dieu. À nouveau cité, David est conscient de ce que c'est sa personne que Dieu désire. David perçoit cette céleste invitation. Il n'ira pas au culte. Il sera le culte. En effet, grâce à sa relation intime, il comprend que le Dieu qui lui a donné la vie par sa parole a aussi écrit un projet qui le concerne dans son livre de vie. David comprend que la plus belle manière de plaire à Dieu est de suivre et d'entrer dans cette vocation divine. L'intensité de cette démarche conduit l'auteur des Hébreux à comprendre que c'est dans ce cheminement que le Christ est passé. Il s'est offert à son Père pour faire sa volonté. En effet, si nous lisons Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7, il est dit dans ce passage, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as donné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Les paroles du psaume de David sont intégralement reprises et appliquées à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus n'a pas négligé les choses spirituelles pour accomplir l'offrande parfaite à travers la volonté de Dieu. De plus, Jésus associe les membres de son Église en les sanctifiant afin qu'ils soient présents avec lui dans les cieux à la fin des temps. La conclusion pour ces deux messages. Chers frères et sœurs, il y a dans ces versets que nous avons examinés ce matin de vraies et justes manières d'offrir un culte agréable à Dieu. Nous avons besoin de Jésus pour aller au Père. Et ce n'est qu'en accomplissant ces directives que nous pourrons y parvenir. Notre objectif pour pouvoir accéder au royaume de Dieu ne passe pas par cette terre, car il nous a rappelé que Dieu n'est pas intéressé par notre argent, ni par nos offrandes, ni même par la durée de nos prières. Dans le plan de Dieu, l'accomplissement de l'Évangile n'est pas suffisant pour être inscrit dans le livre de vie, car Dieu s'intéresse qu'à nous. La sainteté que nous manifestons est une priorité. Offrons-nous à lui avec générosité en disant « Oui Seigneur, je viens, donne-moi de faire ta volonté sur la terre. » Amen. Voilà, le message est terminé, j'aimerais quand même vous faire un complément d'information. C'est l'historique de la Pâque. pour que vous soyez bien conscient des valeurs qui vont être engagées d'ici quelque temps. Tout d'abord, la Pâque juive. Je vais vous parler quelques instants de la Pâque sans S. Vous avez remarqué que les mots étaient différents. Celle des Israélites, la seule qui figure dans les Écritures. Notre Seigneur Jésus est mort le 14 Nisan de l'an 30 de notre ère, la veille du repas pascal, au moment même où l'agneau pascal était mis à mort depuis 1470 années environ, depuis l'Exode. C'était un moment prédestiné puisqu'il correspondait à l'anniversaire de la délivrance de l'oppression des Égyptiens et de la libération du peuple israélite par Dieu. Ce moment précis de cette libération est celle du repas pascal. Le 15 Nisan de l'année 1445 avant Jésus-Christ. Exode chapitre 12 verset 42 nous dit « Ce fut une nuit de veille pour l'Éternel qui les fait sortir d'Égypte. Il sera une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel pour tous les Israélites au fil des générations. » Cela devint une date éternelle pour les Israélites. Rappelons que la journée chez les Juifs commence à 18h le soir et se terminait à 18h le lendemain soir. Pour les Juifs, il n'y avait qu'un calendrier, le calendrier lunaire, qui soit valable depuis l'Exode. Il y a 12 mois lunaires plus un mois intercalaire bissextile tous les 3 ans pour faire correspondre à l'année vraie. Les fêtes de l'Éternel sont fondées sur ce calendrier. Le calendrier était plus juste qu'aucun autre parce que la mise à jour était permanente. Jésus ordonna à ses disciples de préparer le repas de Pâques une journée plus tôt que la date traditionnelle pour pouvoir la manger avec ses apôtres car il savait qu'il devait mourir le lendemain, 14 Nisan en fin de journée. Il est dit dans Luc chapitre 22, versets 7 à 8, « Le jour des pains sans levain où l'on devait sacrifier l'agneau pascal arriva. Jésus envoya Pierre et Jean leur disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » La fête des pains sans levain durait 7 jours et commençait en même temps que le repas pascal. Nous savons par les Écritures que Jésus est mort un vendredi. Évangile de Jean, chapitre 19, versets 31 à 34. Puisqu'il est dit, c'était la préparation de la Pâque et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix durant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise ses jambes au crucifié et qu'on enlève les corps. Le lendemain de la mort de Jésus était un sabbat qui devait être solennel parce que c'était également le jour du repas pascal où démarrait la fête des pains sans levain, le 15 Nisan selon Lévitique chapitre 23 verset 5. La résurrection de Jésus eut lieu le troisième jour après sa mort, le premier jour de la semaine, soit le dimanche matin à la première heure, Jean chapitre 20 verset 1 à 2. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur et qu'elle vit que la pierre avait été ôtée du sépulcre, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Donc, pour résumer les événements de la semaine, le soir du jeudi, Jésus prend le repas pascal avec ses disciples. La nuit du jeudi au vendredi, Jésus est arrêté. La journée du vendredi, Jésus est condamné à exécuter par crucifixion. Il meurt vers 15 heures. Dans la nuit du vendredi au samedi, la communauté juive prend le repas pascal. Le dimanche matin de la première heure, Jésus ressuscite. Je vais vous parler également de la Pâque des catholiques. Cela ennuyait beaucoup l'empereur Constantin que les chrétiens célèbrent la mort et la résurrection du Christ, une fête juive, au concile de Nicée, en 325 avant après Jésus-Christ. Il fit mettre en la loi cette déclaration et ordonna que la mort et la résurrection du Christ soient célébrées le dimanche suivant la première pleine lune après l'équinoxe du printemps, un temps associé à la fertilité du printemps. Le résultat de Nicée fut que la mort et la résurrection du Christ furent retirés de son contexte biblique et célébrés dans le contexte d'une fête païenne. Le calendrier romain en vigueur à cette époque servit de fondement au calcul de cette nouvelle Pâque. Il était fondé sur l'année solaire, telle qu'on la connaissait à l'époque depuis Jules César. C'est lui-même qui avait créé le calendrier au début de notre ère. Depuis Grégoire XIII, en 1582, un nouveau calendrier solaire fut utilisé pour les fêtes catholiques, car l'ancien calendrier avait pris 10 jours de retard par rapport à l'année vraie. Qu'en est-il de l'année 2019 ? Cette année 2019 est particulière. Il y a correspondance entre les deux calendriers juifs et chrétiens, car le 14 Nisan du calendrier juif, donc le jour anniversaire officiel de la mort de notre Seigneur Jésus, correspond au 19 avril 2019 et tombe le même jour que le vendredi saint du calendrier de l'Église catholique. Le dimanche 21 avril 2019 correspond à la résurrection de Jésus dans les deux calendriers. Mais cette correspondance entre ces deux façons de commémorer la mort et la résurrection du Christ, même si elle coïncide occasionnellement, fait appel d'un côté à l'histoire biblique et d'autre part à la tradition de l'Église catholique. Je vous laisse le soin d'en tirer les conclusions. Voilà ce que je voulais vous dire. Comme ça, vous savez exactement ce qu'il en retourne pour la Pâque. Il faut savoir qu'il y a une Pâque juive et une Pâque chrétienne. Enfin, chrétienne, catholique, disons. Voilà. Je vous remercie.